semaine. Je viens donc de l'assemblée de Carnières, où ma femme et moi habitons depuis une dizaine d'années maintenant. En quelques mots, je vais me présenter parce que j'estime toujours que parler de moi, ce n'est pas très intéressant. Parler du Seigneur, c'est beaucoup plus intéressant. Et parler de sa parole également. Mais bon, pour que vous sachiez quand même un peu à qui vous avez affaire. Donc, je suis né dans une famille protestante, chrétienne, depuis plusieurs générations. Et en réalité, si bien du côté de mon père que du côté de ma mère, on était protestants. J'ai à la maison la Bible de mon arrière-grand-père, qui date de 1850, donc une Bible protestante. Donc vous voyez que c'est assez exceptionnel, car vous savez qu'en Belgique, on n'est pas très nombreux comme protestants ou comme évangéliques. On est à peine 1% de la population. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et puis, bon, j'ai fréquenté l'école du dimanche, j'ai été présenté à l'église réformée, à pâturage, parce que mon père venait du Borinage, et donc j'ai été présenté à Petit Wam par le pasteur Husquin, ceux d'entre vous qui l'avaient peut-être connu. Et puis, mes parents sont allés à Bruxelles à cause du travail de mon père, et on a fréquenté à ce moment-là l'église méthodiste, car à l'époque ça existait encore, je ne sais pas si tu as connu ça, mais il y avait l'église méthodiste à Bruxelles, à la rue du Champ de Mars, qui est devenue entre-temps les pubs. Et donc là, j'ai suivi aussi les cours de l'école du dimanche, le groupe de jeunes, etc. Et puis, comme du côté de ma mère, ils étaient dans l'armée du salut, j'ai été à un camp de jeunes, d'enfants, à Spa, pas loin de chez vous, et à la Villa Meyerbeer. Mais c'était encore l'ancienne villa, pas celle qu'ils ont construite maintenant. Et pendant ce camp, on nous a expliqué notre condition humaine et le péché qui veut toujours s'attacher à nous et qui tâche notre cœur. Et je me souviens que le capitaine qui nous expliquait cela, vous savez, dans l'armée du salut, il y a des grades comme dans toute armée. Et le capitaine Mott nous a expliqué qu'en fait, les péchés qui entrent dans nos vies, c'est comme des taches qui tombent sur notre cœur. Il avait découpé un tissu en forme de cœur, et il lançait chaque fois une tache d'encre sur ce tissu en disant, voilà quand vous avez menti à votre maman, voilà quand vous avez eu une mauvaise pensée, voilà quand vous avez volé peut-être le crayon de votre voisin de classe, etc., etc. Et bientôt, ce cœur de blanc qu'il était, il devenait presque tout noir et chargé. Et je sentais mon cœur aussi, qui était de plus en plus chargé. Et il dit, mais Jésus est venu. Et c'est grâce à son sacrifice que nous pouvons être pardonnés, lavés de tout péché, purifiés, blancs, plus blancs que neige, lavés par le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Et il a trempé ce morceau de tissu dans une bassine qu'il avait devant lui. J'ai su plus tard que c'était de l'eau de Javel. Et il en est ressorti, évidemment, blanc. Et il nous a dit, voilà, si vous voulez connaître cette purification, avancez-vous, on va prier avec vous. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais 9-10 ans, à peu près. Et puis, à travers d'autres circonstances, je suis allé à un camp de jeunes dans le sud de la France, à Mâcon. Et là, j'ai rencontré des jeunes américains qui étaient vraiment tout feu, tout flamme, comme on dit, pour l'Évangile, et qui sont venus pour apporter leur témoignage dans toute cette belle région de France. Et tous les jours, on allait dans un autre village et on partageait, à travers des chants, à travers des témoignages, ce que Dieu avait fait dans la vie de chacun. Et j'ai été vraiment impressionné parce que je me suis dit, j'ai jamais vu des jeunes qui ont une telle passion pour Dieu. Et quand je suis revenu en Belgique, j'ai dit, il faut que je fasse ça moi aussi. J'ai vraiment ressenti que je devais m'engager pour le Seigneur et pas simplement venir le dimanche matin pour réchauffer la chaise sur laquelle je m'asseyais. Et j'ai découvert un groupe de jeunes qui s'occupaient d'un café-bar de Teen Challenge à Bruxelles. Et donc je me suis engagé là et puis je suis devenu un des responsables de ce café-bar. Et à travers ce café-bar, un beau jour, il y a quelqu'un qui est entré. Vous savez, le café-bar, c'est un endroit comme un café, c'est ouvert à tout le monde. Et les gens peuvent venir, on leur offre une tasse de café, et puis on va dans la rue, on distribue des traités en leur disant, voilà, si vous voulez venir nous parler, il y a tel endroit, il y a ce local qui est ouvert à tout le monde, vous êtes le bienvenu. Et donc entre un monsieur, et c'était mon tour d'aller accueillir les personnes, donc je vais vers lui, et je lui dis bonjour, comment vous appelez-vous? Il me dit, bonsoir, je m'appelle Slavik, et je suis juif de Russie. Alors là, j'ai eu le choc de ma vie, parce que, entre-temps, moi j'avais fait mon service militaire en Allemagne, comme assistant aumônier protestant, et la première chose qu'on nous a dit quand j'ai commencé mon service militaire, c'est que la Belgique n'a aucun ennemi dans ce monde, sauf la Russie, qui veut nous envahir avec le communisme. Alors quand il a dit « je suis de Russie », je me suis dit « les Russes sont arrivés, on ne s'en est même pas rendu compte ». Vraiment, c'est la catastrophe. Et puis quand il a dit « je suis un juif de Russie », je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » Parce que moi, j'avais toujours entendu dire à l'école que les juifs avaient été exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'église, quand on parlait des juifs, ben, ce n'était pas très flatteur. Parce qu'en général, c'était ces extraits de Matthieu 21, « Malheur à vous, race de vipères, tombeau blanchi, etc. » Toutes ces accusations très sévères vis-à-vis des pharisiens surtout. Mais bon, on dit que ce sont les juifs en général, donc on les met tous dans le même bain. Et je me suis dit, franchement, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Il a commencé à me parler du fait que son grand-père était le grand rabbin d'Odessa en Ukraine, et que... Il était parvenu à quitter donc la Russie avec son père illégalement, parce qu'à l'époque c'était encore illégal de quitter la Russie. Ils étaient allés en Israël, et d'Israël, ben, lui, il était parti en Europe parce qu'il voulait voir un peu le monde, et donc il a atterri en Belgique. Il a ouvert un magasin de vêtements à Anvers, et là, un beau jour, il y a un missionnaire sud-africain qui est passé par là et qui est entré dans son magasin et qui lui a parlé du Seigneur, qui lui a parlé de son Messie, le Messie d'Israël. Et il a accepté ce Messie d'Israël dans sa vie. Et du coup, donc il est arrivé à Bruxelles un beau jour, et on s'est rencontrés, et il me dit, mais tu sais, Dieu a un plan spécial, particulier, pour le peuple juif et pour Israël. Et je dis, non, je ne savais pas. En dépit du fait que j'ai grandi, comme je l'ai dit, dans l'Église, protestante, évangélique, l'armée du salut. J'ai dit non, je ne savais pas que ce soit le cas. Alors il me dit oui, je vais t'expliquer. Alors il a commencé à m'expliquer certaines choses. J'ai dit bon, tu sais, moi personnellement, ce qui m'intéresse surtout, c'est savoir ce que dit la Bible. Pas ton opinion personnelle ou mon opinion personnelle, mais qu'est-ce que dit la Bible sur ce sujet. Et puis il m'a montré des passages dans la Bible, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. Et je dis, bon, tu sais, ta Bible, je ne sais pas si je peux vraiment m'y fier, parce qu'on nous avait quand même formés avant de lancer ce ministère de café-bar en nous disant, attention, parce qu'il y a beaucoup de sectes aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans toutes sortes de trucs bizarres, les témoins de Jéhovah et les mormons et ceci et cela et les enfants de Dieu. À l'époque, c'était les enfants de Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était encore une autre secte, etc. Enfin bon, bref, on nous avait formés pour pouvoir faire face à tous ces gens. Et par contre, moi je n'avais jamais entendu quelqu'un qui parlait des Juifs et d'Israël. Je me suis dit, ça c'est une nouvelle secte dont je n'ai pas entendu parler, mais ce n'est pas grave, je vais l'avoir au tournant, parce que nous, on nous a bien formés. Donc, je lui ai dit, donne-moi les références que tu lis dans ta Bible, et je vais vérifier dans la mienne. Parce que vous savez qu'il y a des sectes qui ont une version différente de la Bible. Hein. Ils ont transformé la Bible pour qu'elle puisse faire, et pour lui faire dire ce qu'on voudrait qu'elle dise, quoi. Donc, je me suis dit, je vais la voir au tournant. Je vais vérifier, et certainement que c'est quelqu'un qui est dans des trucs complètement bizarres. Et j'ai vérifié donc chaque fois à la maison les versets qu'il me donnait. Et j'étais étonné parce que je me suis rendu compte, plus j'avançais et plus je discutais avec lui, qu'en fait c'était lui qui avait raison et moi qui avais tort. Alors là, vous savez, ça c'est pénible, hein, de devoir admettre qu'on a tort, qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas vu telle et telle chose. Notre orgueil en subit évidemment beaucoup de dommages. Donc, ça m'a mis du temps avant de me dire, mais finalement, est-ce possible que Dieu a vraiment un peuple qu'il a choisi, un pays qu'il a élu, etc., et qu'il a donné à ce peuple, et que ce soit tellement important dans sa pensée et dans son cœur, et que surtout, je ne m'en sois jamais rendu compte. Parce que je me suis dit, si je dis que j'aime Dieu, alors ça veut dire en principe que j'aime ce que Dieu aime, que je connais ses pensées, que je connais ses voies, que je connais sa volonté. Sinon, comment puis-je dire que j'aime Dieu si en réalité je ne connais rien de sa personnalité, de son caractère, de ce qu'il aime et de ce qu'il désire? Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et je me suis dit, il faut que j'essaie de comprendre. Qui est ce peuple juif? Qui sont ces juifs? Qui est Israël? Et ce pays qu'il a choisi, qu'il leur a donné, où Jésus est né, où Jésus a vécu toute sa vie, où il est mort pour nous, où il est ressuscité et d'où il est monté au ciel. Tout ça, ça s'est passé en Israël, nulle part ailleurs. Est-ce que ça n'a aucune importance? Est-ce que c'était par hasard que Jésus est né en Israël, il a grandi en Israël, il a exercé tout son ministère en Israël, il est mort en Israël, il est ressuscité en Israël, il est monté au ciel en Israël? Et tout ça n'a aucune importance. C'est bizarre. Je me suis dit parfois, on parle de beaucoup de choses dans l'Église, mais on ne parle pas toujours de ce qui est dans le cœur de Dieu. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce fameux peuple juif, et à Israël, et d'essayer de comprendre qui est ce peuple, d'où vient-il, quel a été son cheminement, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui, justement, parce que, étant donné tout ce que j'avais entendu, même à propos de la Seconde Guerre mondiale, je me suis dit, quelle est la vérité? Donc j'ai vraiment fait des recherches, et finalement, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, qui s'appelle Esther, qui n'est pas juive, mais qui est philippine, mais qui a grandi dans une famille protestante, elle aussi. Ce qui est aussi exceptionnel, parce que vous savez qu'aux Philippines, il y a très très peu de protestants ou d'évangéliques. C'est un pays majoritairement catholique également. Et on s'est rencontrés à Bruxelles, parce que moi je travaillais pour l'ambassade de Singapour, et à travers un collègue de bureau, on s'est rencontrés. Et après un certain temps, elle me dit, bon, écoute, moi je vais aller travailler à Rome, en Italie. Donc, au revoir. Pardon? Finalement, j'avais trouvé une femme qui me plaisait, avec laquelle je m'entendais bien, qui aime le Seigneur, etc. Et dit, oui, je m'en vais. Donc, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié, que le Seigneur m'a permis de trouver un emploi à Rome, à l'ambassade du Canada, auprès du Saint-Siège. Donc, j'ai été au Vatican pour des questions administratives. Hein. Moi, protestant, vous imaginez un peu le scandale dans la famille. Quand j'ai dit à ma grand-mère que je partais travailler à Rome, elle m'a dit, alors là, franchement, ça va mal. Mais bon, elle a quand même accepté. Et puis, donc, j'ai travaillé là-bas et on s'est mariés à Rome parce que je voulais revenir me marier en Belgique, mais on m'a dit, non, c'est interdit parce que vous êtes résident dans un autre pays et vous devez vous marier là où vous résidez. Donc, on a dû se marier à Rome. Et puis, après un certain temps, étant donné qu'il y avait la crise économique au Canada, votre pasteur le sait sans doute, au début des années 1990, ma position a été coupée. Donc j'ai perdu mon emploi. Et puis, comme les Canadiens m'aiment quand même beaucoup, apparemment, ils ont voulu me garder. Ils m'ont transféré à l'autre ambassade à Rome, donc l'ambassade auprès de l'État italien. Et là, j'ai travaillé aussi pendant un certain temps. Et puis, de nouveau, belote et rebelote, à cause de la récession au Canada, de nouveau, ma position a été coupée. Alors, j'ai dit, bon, Seigneur, ça commence à bien faire. Ça fait déjà deux fois que je perds mon emploi. Est-ce que tu serais par hasard en train d'essayer de me dire quelque chose? Et puis, on a vraiment ressenti que le Seigneur nous disait, prenez un temps de repos, allez en vacances, en Israël, puisque nous, on aimait déjà Israël, on priait pour Israël, etc. Alors, on se dit, ben, on part en voyage de noces, en vacances, en Israël. Donc, on est parti, et puis on pensait qu'on serait là-bas pendant 3 mois, 6 mois. Vous savez, en tant que touriste, on a un visa limité, on ne peut pas rester ad vitam aeternam. Donc, on s'est dit, on sera là 3 mois, 6 mois, et finalement, on a vécu là-bas presque 10 ans. Et notre fils est né là-bas en Israël, en l'an 2000, et le 19 janvier 2000. Donc, il y a quelques jours, il vient de fêter son 17e anniversaire. Et donc, j'ai été aussi pasteur d'une assemblée messianique là à Tel Aviv. Moi, le non-juif, j'ai dû enseigner les juifs et leur apprendre ce que dit leur Bible. Parce que, vous savez, la Bible, c'est un livre juif, nous l'oublions pas. Tous les prophètes étaient juifs. Tous les apôtres étaient juifs, tous les disciples étaient juifs, Jésus était juif. C'est une grande affaire de juifs, hein, la Bible. Et donc, moi, le non-juif, j'ai dû apprendre qu'est-ce que c'est que ces fêtes de l'Éternel, par exemple, la Pâque juive. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte, Shavuot en hébreu, etc. Parce que moi, je ne connaissais rien du tout à toutes ces choses. Donc, ça a été une immense découverte pour moi. Et puis, quand je suis revenu en Belgique pour voir ma famille, ben, souvent, des chrétiens ou des pasteurs me disaient, est-ce que tu ne voudrais pas venir nous parler de ce qui se passe en Israël, ce que Dieu fait, et comment tu vois les choses, etc. Et de plus en plus, j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin pour ce genre d'enseignement, d'information. Et j'ai ressenti à un moment donné que le Seigneur me disait, mets-toi à la disposition des églises. Rends-toi disponible. Et ceux qui t'appellent, qui ont besoin de toi, tu iras les servir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, à un moment donné, en 2001, j'ai réalisé que mon temps avec cette assemblée messianique en Israël était fini. Et j'ai passé le flambeau à un juif messianique qui venait d'Afrique du Sud, qui, lui, avait déjà bien une bonne expérience en tant que responsable d'une assemblée en Afrique du Sud. Et j'ai dit, maintenant que notre fils est né, il faut qu'on rentre en Europe, parce que d'abord, mes parents étaient en trop mauvais état de santé, tous les deux. Ils sont décédés entre-temps, d'ailleurs. Et puis, mon fils devait commencer ses études. Et on s'est dit, s'il reste en Israël, il va apprendre l'hébreu, il va devenir israélien dans sa mentalité et tout ça. Mais si un jour, je perds de nouveau mon emploi, parce que je travaille pour l'ambassade du Canada à Tel Aviv, donc, vous voyez, moi et les Canadiens, on a une longue histoire, hein, on remonte à très longtemps. Donc, je me suis dit, si je perds de nouveau mon emploi ici à Tel Aviv, comme j'ai perdu à Rome, qu'est-ce que je ferais? Et à ce moment-là, il faudrait qu'on retourne en catastrophe en Europe ou en Belgique, et mon fils serait complètement perdu. Parce que lui, il parlerait l'hébreu, mais pas le français, il n'aurait pas appris à l'école les matières qu'on apprend ici, etc. Donc, on a vraiment ressenti que c'était le moment de revenir en Europe, et depuis lors, donc, je vais à droite, à gauche, pour enseigner sur ces vérités bibliques, la racine de notre foi. Alors justement, ce matin, on va faire un rapide survol de Romains, chapitre 11. Parce que, comme vous le savez sans doute, l'apôtre Paul, qui était juif aussi, hein, bien sûr, comme tous les autres, je l'ai déjà dit, tous les apôtres étaient juifs, et lui-même juif, il écrit donc cette lettre aux Romains, donc les gens qui habitent à Rome. Et bien sûr, il s'adresse surtout à des non-juifs et leur dit « Attention à votre attitude par rapport au peuple juif. » Et il va commencer par poser une question que pas mal de gens se posent encore même jusqu'à aujourd'hui. On est à peu près en 56-58 après Jésus-Christ, donc à peine une vingtaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus. Et déjà, on se pose cette question. Est-ce que Dieu a rejeté le peuple juif, Israël, à cause de leur rejet de Jésus? Il pose cette question. Verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Il répond lui-même, certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc il dit clairement ici, attention les amis, ce n'est pas parce que certains juifs n'ont pas accepté Jésus en tant que Messie d'Israël, en tant que sauveur de l'humanité, que ça veut dire pour autant que Dieu les a rejetés. Absolument pas. Dans la mentalité, dans la pensée de beaucoup de chrétiens, il y en a beaucoup qui disent « les Juifs ont rejeté Jésus ». J'entends ça très très souvent. Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup de Juifs qui ont accepté Jésus. Parce que si ce n'avait pas été le cas, alors qui étaient ces 5000 hommes pour lesquels il a multiplié des pains et des poissons? C'était des catholiques en pèlerinage à Rome? Non, en Israël? Mais non. C'était des Juifs, sans compter les femmes et les enfants. Donc on parle au moins d'une dizaine de milliers de personnes, au moins. Et c'était des Juifs. Et il y en a énormément qui ont aimé Jésus, qui le suivaient, et qui n'ont pas crié « crucifie-le ». Il ne faut pas oublier cela. Des milliers d'entre eux, comparés à peut-être une centaine qui étaient dans la cour du Sanhédrin, le jour où il a été jugé, où Jésus a été jugé, il y avait peut-être une centaine de personnes à tout casser dans la cour de Sanhédrin qui voulaient se débarrasser de lui. Et notamment et surtout les chefs religieux, c'est ce que les évangiles nous disent. Mais la population, les Israéliens de l'époque, aimaient Jésus. Ils le suivaient. Il y en a énormément qui se sont, on va dire, convertis, entre guillemets. Je n'aime pas tellement ce terme, surtout quand on parle du peuple juif, parce qu'en réalité, le peuple juif ne doit pas se convertir à une autre religion, puisqu'ils connaissent déjà le Dieu d'Israël. Ils doivent accepter le Messie d'Israël en tant que Messie personnel, en tant que sauveur de l'humanité, oui, mais ils ne se convertissent pas à une autre religion. Parce que le Dieu que nous adorons en tant que chrétiens, c'est leur Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est nous qui nous sommes convertis à la religion du Dieu d'Israël. Ne l'oublions jamais. Et c'est ce que l'apôtre Paul va montrer aussi ici dans ce passage de Romains chapitre 11. Je saute quelques versets parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Et je passe au verset 7. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Quand on lit ce verset, en tant que chrétien, on se dit, voilà, ici c'est clair, qu'Israël recherchait quelque chose, il ne l'a pas obtenu, donc on va dire la bénédiction de Dieu, mais ceux qui ont été choisis, c'est-à-dire nous les chrétiens, l'Église, l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit ici. Il parle de ces Juifs, certains qui ont reçu en effet la grâce de Dieu et le salut à travers le Messie d'Israël, et les autres qui l'ont rejeté. Mais il ne parle pas ici des non-Juifs. Il parle de ces Juifs. Certains ont accepté la grâce et certains l'ont refusé. Et on voit cela dans toute la Bible, que le peuple juif, à travers les siècles, a toujours été, soit à la suite de Dieu, il obéissait les commandements de Dieu, et puis une partie du peuple désobéissait. Il se détournait de Dieu et il ne suivait pas ses commandements. Vous savez comme moi. Donc c'est de ça qu'il parle ici. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Il dit ici au verset 8, comme il est écrit. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul va citer comme verset, c'est absolument choquant. Comme il est écrit, donc dans la Bible, l'Ancien Testament, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, c'est incroyable, ça. Dieu donnerait des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Mais c'est scandaleux. Trouvez pas? Jusqu'aujourd'hui, donc jusqu'au moment où l'apôtre Paul écrit ses paroles, il cite ce passage et il dit jusqu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Et puis, David, verset 9, David dit aussi, « Que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir. Fais-leur courber constamment le dos. » Mais dis donc, quelle prière, hein? C'est épouvantable. J'espère que vous priez jamais comme ça pour les gens qui sont autour de vous, hein? Seigneur, que ses yeux soient obscurcis pour ne pas voir et fais-lui courber constamment le dos. Ben dis donc, pas sympa hein, comme prière. Comme dit le proverbe en yiddish, avec des amis pareils qui ont encore besoin d'ennemis. Hein? Pourquoi est-ce que David prie une telle prière? Il va l'expliquer. Verset 11. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Vous savez qu'il y a une grande différence entre tomber et trébucher. Quand on tombe, on peut se faire mal et même très mal. On peut se casser une jambe, un bras, on peut avoir une commotion cérébrale. Ce n'est pas de la rigolade, hein, tomber. Mais trébucher, c'est-à-dire je me suis pris les pieds dans le tapis, là, hop, mais je me suis rattrapé. Donc je ne suis pas tombé, il n'y a pas eu de mal, ça va. Donc il dit, est-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Il dit certainement pas, absolument pas. Mais grâce à leur faux pas, le fait qu'ils aient trébuché, les non-juifs, c'est-à-dire nous, parce que dans certaines versions, il est écrit les gentils. Mais j'ai dit, le problème avec ce mot gentil, c'est que ça ne reflète pas la réalité, parce que bien souvent, les gentils ne sont pas très gentils, justement. Hein? Enfin bon, ça c'est un autre discours. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous avons eu accès au salut, d'accord, afin de provoquer leur jalousie. Jaloux de quoi? De ma belle veste, de ma belle voiture, de ma belle maison, ou quoi? De quoi est-ce qu'ils pourraient être jaloux, ces juifs, par rapport à moi, le chrétien? Eh bien, ils devraient être jaloux du fait que le Dieu que j'adore, c'est leur Dieu. Que le Messie que j'aime, qui a donné sa vie pour moi sur la croix, c'est leur Messie. Jésus disait, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. On a tendance à l'oublier. Et j'ai aussi reçu de la part de leur Dieu le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. N'est-ce pas merveilleux? Toutes ces choses que j'ai reçues leur appartiennent. Parce que l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 11, chapitre 1, verset 16, je cite de mémoire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est tout? Pointe à la ligne? Non, ça c'est la moitié du verset. Pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, et puis pour le grec. C'est ça la priorité de Dieu. C'est sauver d'abord le peuple juif. C'est pour ça que Jésus est venu en Israël. Si c'était pour sauver les non-juifs, il serait d'abord allé en Chine, par exemple, ou en Europe. Non, il est allé en Israël, parce qu'il était le Messie d'Israël, le roi des Juifs. Ça, c'est le titre officiel qu'on lui donne dans la Bible. On a célébré Noël il n'y a pas tellement longtemps, souvenez-vous. Et une des toutes premières questions, un des tout premiers titres qui apparaissent dans la Bible quand les mages arrivent à Bethléem, ils ont suivi l'étoile, souvenez-vous, c'était des gens qui observaient les étoiles, et ils ont découvert cette étoile spéciale qui devait montrer que le Messie d'Israël était arrivé. Ils arrivent à Bethléem après l'avoir suivi cette étoile, et ils posent cette question, où est qui? Le roi des Juifs, pour que nous puissions l'adorer. La crèche. Et puis, à la croix, il y avait un panneau écrit au-dessus de sa tête qui disait ceci, en trois langues, pour que tout le monde comprenne. en hébreu, en latin et en grec. Yeshua Hanotzri Vemelecha Yehudim. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, pour l'éternité. De la crèche à la croix, il est le roi des Juifs et pour toujours, il est le roi des Juifs. Il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé d'opinion. Il n'a pas rejeté son peuple. Il n'a pas choisi de leur tourner le dos parce qu'ils ont été infidèles, certains d'entre eux, et c'est vrai. On ne peut pas le nier, certainement. La Bible est un livre honnête parce que c'est un livre qui nous montre les choses telles qu'elles sont, et notamment le peuple d'Israël. On ne les épargne pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qu'Israël fait de mauvais, on nous en parle. C'est encore le cas aujourd'hui, hein, à travers les médias, je ne sais pas si vous avez remarqué. Tout ce qu'Israël fait de mauvais, on nous en parle. Tout ce qu'ils font de bon, on n'en parle pas. Il y a un certain parti pris, on pourrait dire. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui dérange. Parce que c'est un peuple qui représente Dieu sur la terre, finalement. C'est à travers ce peuple que Dieu s'est révélé au monde. Il a choisi ce peuple, pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais tout simplement par grâce, par amour pour ce petit peuple de rien du tout. Ils sont à peine 13 millions dans le monde entier. Ils ont un pays minuscule qui fait 21 000 km². Vous savez que la Suisse, qui n'est déjà pas un très grand pays, c'est 41 000 km². La Belgique, qui n'est pas très grand non plus, 31 000 km². Et Israël, 21 000 km². Et le peu qu'ils ont, on veut encore le leur enlever, le couper, le diviser, le partager. C'est étonnant. Mais continuons la lecture de ce passage. Verset 12. Or, s'il leur faut pas, a fait la richesse du monde et leur déchéance, la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Oh, ça c'est étonnant ça. L'apôtre Paul parle de prophétie, là. Il dit qu'un jour, ils seraient complètement rétablis. Il dit, puisque leur faux pas, certains qui ont rejeté Jésus, a fait la richesse du monde, c'est-à-dire qu'on a pu rentrer dans ce plan de Dieu, finalement, alors qu'auparavant, ça nous était interdit en tant que non-juifs, mais grâce à leur faux pas, Dieu nous a acceptés dans cette bénédiction. Et d'ici, grâce à leur faux pas, donc, il y a eu une telle richesse pour le monde, et si leur déchéance a fait la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Ça veut dire qu'un jour, préparez-vous, ce sera peut-être un choc pour certaines personnes, mais Israël, le peuple juif sera rétabli aux yeux de Dieu, parce que c'est l'intention de Dieu. Dieu ne veut pas que le peuple juif soit perdu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les juifs inclus, et qu'ils connaissent la vérité. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il ne les a pas rejetés, et il a encore un plan de salut pour eux, de complet rétablissement. Et, verset 13, « Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère. » Ben oui, pour ceux d'entre vous qui avaient fait un peu d'école biblique, comme c'est mon cas, une des choses qu'on nous a apprises, évidemment, c'est que l'apôtre Paul était l'apôtre des non-juifs. On est d'accord. Tandis que l'apôtre Pierre était l'apôtre des juifs. Bon, c'est vrai. Mais alors, ce qu'on a oublié de nous mentionner, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul avait choisi de se tourner vers ces non-juifs, verset 14. « Afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. » Oh, le cachotier. Oui, il dit qu'il est l'apôtre des non-juifs, mais en réalité, son but ultime, c'était de sauver des juifs quand même. Intéressant. On voit de nouveau là, la priorité de Dieu dans le cœur de Paul, pour le juif premièrement. Et quelque part, il a utilisé cette façon d'apporter l'évangile aux nations afin de provoquer les Juifs en leur disant, vous voyez, moi le Juif pharisien, j'apporte l'évangile qui vous appartient, la bonne nouvelle, le Messie d'Israël, je l'apporte, je le donne aux nations, alors que ça devrait vous revenir de droit. Et c'est comme ça qu'il voulait provoquer la jalousie de son peuple, en leur faisant comprendre, ce qui vous appartient de droit, je le donne à un autre peuple, à une autre nation. Quelle chose extraordinaire de se rendre compte de cela. Verset 15. En effet, si leur mise à l'écart, j'aime ce terme ici, l'apôtre Paul dit, ils n'ont pas été rejetés, ils n'ont pas été reniés, ils n'ont pas été détruits ou anéantis, mais ils ont été mis à l'écart. Ça veut dire que pendant un certain temps, Dieu a choisi de les mettre à l'écart parce qu'il voulait s'occuper d'autre chose, de nous, les nations, les non-juifs. Mais si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Waouh! L'apôtre Paul ici, de nouveau, il dit, un jour, ils seront réintégrés, Dieu va les remettre à leur place, et ce sera un choc phénoménal. C'est comme s'il y avait ici devant nous un corps, un cadavre, mort. Et tout à coup, il ressuscite. Il dit, ça va être un choc pareil pour les nations du monde qui vont se dire, Israël était mort, Dieu l'a rejeté, il a rejeté les Juifs, Dieu n'a plus rien à voir avec Israël, avec le peuple juif. Mais un jour, tout à coup, Israël ressuscite et redevient un peuple que Dieu a choisi, qu'il aime et qu'il aimera toujours. Parce que la fidélité de Dieu, mes amis, n'est pas comme notre fidélité. Vous savez, en tant qu'être humain, bien des fois, on n'est pas très fidèle, malheureusement. On le voit dans nos mariages, on le voit dans nos relations. Mais la Bible nous dit que même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Parce que lui, il est Dieu. Et sa fidélité ne dépend pas des circonstances, ni des sentiments, ni d'une préférence. Il reste fidèle parce qu'il est fidèle. C'est sa nature. Et donc, s'il est fidèle envers nous, les chrétiens, mais certainement il est fidèle envers Israël, parce qu'il a fait des centaines de promesses à ce peuple dans ce livre. Ça, c'est la promesse. C'est la preuve que Dieu restera fidèle à ce peuple. Verset 16. Alors, il vient dire quelque chose ici qui est un peu bizarre. Vous savez, ça m'a mis des années avant de comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici. Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Du pain qui est saint. Qu'est-ce que c'est que ça? Souvenez-vous, nous sommes en 56 après Jésus-Christ. Le temple de Jérusalem existe encore. Il sera détruit en 70 après Jésus-Christ par les soldats romains. Et dans le temple, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait apporter des sacrifices, des animaux, etc. Mais aussi une offrande. Et bien des maisons qui n'avaient pas d'argent pour acheter une tourterelle ou un animal quelconque, là, on préparait le pain. On est en Méditerranée, hein, c'est comme chez les Italiens. La mamma fa il pane quotidiano. Donc, elle prépare le pain, elle prépare la pâte. Et puis elle prélève une partie de cette pâte et la met à part et dit, ça ce sera pour le Seigneur. Ce sera mon offrande. Comme c'est beau. J'en suis tout ému. Et l'apôtre Paul dit ici, vous voyez, vu que cette part de pain maintenant est sanctifiée parce qu'elle est mise à part, c'est ça que ça veut dire être sanctifié, ça veut dire mise à part. Est-ce que je suis mise à part? Est-ce que le Seigneur m'a sanctifié? Et je ne suis pas comme le reste du monde. C'est ça que ça veut dire, mis à part. Donc il dit, vu que cette portion de pain est sanctifiée, certainement tout le restant du pain l'est aussi, on est d'accord, puisque c'est exactement la même chose. C'est la même nature. Le pain qui reste là n'a pas été transformé, on n'a pas ajouté quelque chose. Et il dit maintenant une parabole. Il va parler de deux arbres. Un olivier. sauvage et un olivier franc. Alors, il va dire ceci. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va l'expliquer. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches, quelques-unes, pas toutes les branches, hein, parce qu'encore une fois, quand j'entends dire les Juifs ont rejeté Jésus, ça veut dire que tous les Juifs ont rejeté Jésus, c'est faux. Toute la première église, c'était tous des Juifs, mes amis. À Jérusalem, c'était tous des Juifs. Ce n'est qu'après qu'il y a eu des non-Juifs qui se sont ajoutés à ces branches naturelles. Donc il dit, si quelques-unes des branches naturelles ont été coupées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé, non pas à leur place, comme il y a certaines traductions qui disent, c'est une mauvaise traduction, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, ah, ça change tout. Parce que si on dit tu as été greffé à leur place, ça veut dire qu'il ne restait plus de branches naturelles, numéro 1, et que numéro 2, on a pris leur place. Donc on tombe dans la théologie du remplacement ou de la substitution, qui dit que l'Église remplace Israël. C'est faux. On voit ça nulle part dans la Bible. Désolé. Moi, je vois nulle part dans la Bible que l'Église remplace Israël. L'Église a été ajoutée à Israël, elle fait maintenant partie d'Israël, absolument, mais elle ne remplace pas Israël. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Bon, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, donc ces bénédictions qui passent à travers le peuple juif, les prophètes, etc. Verset 18, alors si c'est le cas, il dit, ne te vante pas aux dépens de ces branches, même ces branches qui ont été coupées, c'est-à-dire les Juifs qui n'ont pas cru. Mais si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est ce peuple qui a été choisi pour nous donner tout ce que nous savons sur notre Dieu. Jésus va même jusqu'à faire cette déclaration incroyable, choquante, Jean chapitre 10, verset 22, à la femme samaritaine, il va lui dire, alors qu'il est là, assis au bord du puits avec elle, le salut vient des Juifs. Pardon ? C'est quand même incroyable de faire une déclaration pareille. Le salut vient des Juifs ? Moi, à l'école biblique, on m'a toujours enseigné, le salut vient à travers la repentance. Et c'est vrai. Le salut vient à travers l'Église. Le salut vient à travers le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est vrai. Mais Jésus dit, le salut vient des Juifs. Pourquoi est-ce qu'il dit une chose pareille? Parce que cette femme était une non-juive, une samaritaine. Et que normalement, il ne devait même pas avoir de contact, les Juifs, avec les samaritains ou les non-juifs. Et c'était déjà donc un grand choc. Et il lui explique, il lui dit, nous savons ce que nous adorons, parce que le salut vient des Juifs. Dieu a choisi ce peuple, et c'est comme ça. Que ça nous plaise pas, ça ne change rien. Dieu a choisi ce peuple pour se révéler au monde, comme je le disais, et pour nous apporter le salut. Jésus était juif, né dans une famille juive en Israël, il était circoncis, il célébrait les fêtes de l'Éternel. Je vous dis quelque chose d'encore plus choquant. Vous savez que Jésus n'a jamais mis les pieds dans une église. C'est vrai. L'église n'existait pas au moment où Jésus est venu. Autre chose, même l'apôtre Paul n'a jamais mis les pieds dans une église. Incroyable, choquant. C'est vrai. Mais à travers les siècles, on s'est détaché de plus en plus de ce tronc à travers lequel nous avons reçu la vie. Et tout ce que nous connaissons d'un point de vue spirituel. On s'est détaché, volontairement. Parce que vous savez, être attaché au peuple juif, c'est mal vu, vous comprenez. On vit dans une société où les juifs, ils sont souvent mal vus. Il faut comprendre, hein, la situation politique et tout ça. Mais ici, on ne parle pas de politique, mes amis. On parle du plan de Dieu pour l'humanité, qui a choisi ce peuple-là. Quelle est notre attitude envers le peuple juif envers Israël aujourd'hui? Est-ce que nous parvenons à aimer ce peuple quand même, en dépit de ses défauts, de sa désobéissance, etc.? Parce que vous savez quoi? Dieu aime ce peuple. Il aimera toujours ce peuple, même si il n'est pas digne de son amour. Mais moi non plus, je ne suis pas digne de son amour. C'est la même chose. Est-ce que nous parvenons à aimer notre prochain, en incluant le juif, ou est-ce que le juif, il a une place particulière sur la liste noire? On peut se poser la question. Et puis, donc il va dire ceci, verset 18, on l'a lu, verset 19, tu diras donc alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil. C'est la deuxième fois qu'il nous dit cela. Verset 18, ne te vante pas. Verset 20, ne fais pas preuve d'orgueil. Mais aie de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire les Juifs, qui n'ont pas cru, il ne t'épargnera pas non plus. Ouh! De quoi est-ce qu'il parle là? Il dit, si nous nous laissons emporter à penser que nous valons mieux que les Juifs et que c'est pour cela que Dieu nous a choisis, nous tombons dans l'orgueil spirituel. Nous nous vantons en disant, moi je valais mieux que ces Juifs et c'est pour ça que Dieu m'a choisi. C'est faux. Moi je ne vaux rien du tout, mes amis. Moi je ne mérite rien du tout, à part peut-être un coup de pied au derrière, pour me remettre sur le droit chemin de temps en temps. Je ne mérite rien. Je ne vaux rien. Je n'ai aucun privilège. J'ai été sauvé par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Cela ne vient pas de nous. Nous ne valons rien. Nous ne valons pas mieux que ces Juifs ou ces Arabes, ou peu importe. Nous ne valons rien. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. Et dit, donc, fais attention, parce que l'orgueil, mes amis, est très pernicieux. Et certains rabbins disent même que l'orgueil, c'est le plus grand péché qu'on puisse commettre. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui a fait tomber Satan, Lucifer. Il a voulu se faire égal à Dieu. Et en pensant qu'il pouvait faire ça, il est tombé très, très, très bas. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est très grave. Ça peut nous faire tomber très, très bas. Il dit, fais attention, parce que s'il n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Verset 21 et verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Oui, si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. C'est la deuxième fois qu'il le dit. C'est grave. Il nous avertit, il dit, attention, mes amis, les non-juifs, faites attention à votre attitude. Restez humbles. N'ayez pas des pensées hautaines. Verset 23. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Et il explique, verset 24, si toi, tu étais coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, ou l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Il dit, c'est logique. Un jour, Dieu va les regreffer sur leur propre olivier et il n'y aura pas de rejet de greffe puisque c'est de là qu'ils viennent. C'est leur arbre, c'est leur nature. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Verset 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère. Quel mystère? Le mystère de cette relation entre les juifs et les non-juifs, entre l'église et la synagogue. Il faut qu'on comprenne ce mystère, il dit. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, je veux que vous le compreniez, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages de nouveau, il parle de l'orgueil, qu'on ne pense pas être plus sage que les autres. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Il dit ici, un beau jour, Dieu va dire, on arrive à cette totalité où l'ensemble des non-juifs, il y a différentes versions, différentes traductions, et à ce moment-là, Dieu va retourner toute son attention vers le peuple avec lequel il a commencé. Il a commencé avec ce peuple et il terminera avec ce peuple. Verset 26, « Et ainsi, tout Israël sera sauvé. » Tu parles d'un réveil. Ça, c'est un vrai réveil. « Et ainsi, tout Israël sera sauvé. » Comme il est dit dans les Écritures, « Le libérateur viendra de Sion. » Et il écartera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, verset 28, ils sont ennemis à cause de vous. Wow! Les Juifs sont devenus les ennemis de Dieu à cause de moi. Parce que quelque part, Dieu a préféré en couper quelques-uns pour que je puisse avoir de la place. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres ou de leurs pères. Qui sont les pères de la foi? Ce n'est pas les papes. Hein? C'est Abraham, Isaac, Jacob, ces gens-là. Joseph, Daniel, David, Salomon, etc. Ça, ce sont les pères dans la foi. Ils sont aimés à cause de leurs ancêtres ou de leurs pères. Verset 29. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. On parle ici de l'appel et des dons spécifiquement envers Israël. Rien à voir avec l'Église. Vous savez, à l'école biblique, on nous a appris quelque chose dont je me souviens encore, une des rares choses. On nous a dit, un texte hors de son contexte est un prétexte. Et certaines personnes prennent ce verset 29 en disant, vous voyez, c'est la preuve que moi je serai dans ce ministère jusqu'à la fin de mes jours, parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ben non, rien, ça n'a rien à voir avec vous et votre ministère, je suis désolé. Il parle ici des dons et de l'appel de Dieu pour Israël. Verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. Et j'arrête ici. Je pense qu'il est important de comprendre le plan de Dieu pour Israël et le peuple juif. Parce que, encore une fois, notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il n'y a pas deux dieux dans ce monde. Il n'y en a qu'un seul. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Et tous les autres, ce sont des inventions, des idoles, que les hommes se sont inventées ou ont créées. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci d'avoir éclairé notre esprit, notre intelligence ce matin par ces paroles de l'apôtre Paul, qui nous encourage, qui nous appelle à rester humbles et à voir ton peuple avec tes yeux et avec ton amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre tes paroles et à mettre en pratique ce que tu nous enseignes ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus, qu'elle nous accompagne tout au long de cette semaine. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.